France Inter, le 18-20.
N'emmerdez pas les Français. Le président de la République et ses verres de vin le midi et le soir n'auraient pas pu mieux dire pour renvoyer le débat à la cave. Et Agnès Buzyn a bu les critiques jusqu'à la lie pour avoir osé dire qu'en matière de santé publique, boire du vin, c'était exactement la même chose que boire de la bière, de la vodka ou du whisky. Car qui touche au vin touche à la France. Et nous, en France, le vin, on le chérit autant qu'on le fabrique. Le produit est innocent. Ceux qui le consomment mal sont en question. Un peu comme les voitures n'y sont pour rien quand les excès de vitesse sont là. Et fin du débat. Il semblerait, vous nous aiderez ce soir à répondre à cette question, que dire que le vin est alcoolisé reviendrait à s'attaquer presque à la civilisation. Ce sont des mots qui ont été employés ces derniers jours, sans imaginer qu'on puisse mettre en garde et informer, sans pour autant interdire ou ostraciser. Ce qui est bon pour les alcools forts ou pour la bière ne compte pas pour le vin, car on ne boit pas de vin comme on boit autre chose. Le débat est vieux comme la vigne, il a provoqué des empoignades déjà au moment de la loi Evin et à chacune de ses révisions, aujourd'hui encore donc. Alors est-ce qu'on se noie dans un verre de vin avec cette affaire? Alors, est-ce que le vin est vraiment un alcool comme les autres? Est-ce qu'il ne compte pas dans les statistiques d'abus d'alcool? Est-ce qu'il n'est pas aussi dangereux? Est-ce qu'on doit considérer que les messages de modération sont bien suffisants? In vino veritas, comme on dit, donnez-nous le vôtre, on y va.
Fabienne Synthèse. Le téléphone sonne.
Votre vérité, plutôt, c'est ce que je voulais dire pour être tout à fait clair. Bonsoir Loïc. Loïc, bonsoir.
Merci pour vos émissions.
Je vous en prie, allez-y.
Alors, en fait, moi, c'était plus pour une remarque qu'une question. Ce que j'ai pu constater, c'est que ceux qui défendent l'usage du vin en disant que ça n'a rien à voir avec l'alcoolisme, que ça fait partie d'un patrimoine, c'est avant tout un argument culturel, en fait. C'est un argument culturel, et cet argument culturel ne peut pas tenir. Enfin, moi, je m'insurge quand j'entends ça, parce que, par exemple, face à l'actualité aux États-Unis, ceux qui défendent les armes utilisent le même argument. C'est culturel, les armes font partie de notre patrimoine, de notre histoire, et on en utilise le même langage pour le vin en France, alors que, moi, j'ai grandi avec une certaine culture de la gastronomie. Le vin faisait partie de la table. Par contre, mes parents étaient responsables. On nous a appris la responsabilité. On nous a appris qu'il fallait pas boire de vin tous les jours. Et voilà. Et ce qui n'empêche pas un respect du produit. Et on peut justement, quand les gens dénigrent le côté
dangereux,
le fait que ce soit une drogue comme les autres, on empêche aussi toute la prévention et une politique sanitaire. Et donc moi ça m'énerve. Et je voulais faire remarquer aussi d'ailleurs à ce sujet, les spots qui passent à la télé pour la prévention de l'alcool sont juste honteux, parce que à chaque fois le message c'est quand votre ami a bu, ne le laissez pas partir, soyez responsable. Et ça victimise la personne qui boit de l'alcool. Et celle qui prend de l'alcool et qui va se planter en bagnole et tuer une famille avec des gosses, il sera victime. Et moi, je comprends pas qu'on puisse passer de tels spots, soi-disant pour la prévention.
Merci beaucoup. On a bien compris, et tant mieux, j'allais dire, ça nous permet d'ouvrir le débat. Loïc, merci beaucoup pour répondre à vos questions, vos interrogations, pour ouvrir le débat sur France Inter. Ce soir, Michel Reynaud est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes addictologue, président du Fonds Action Addiction. Bonsoir Jacques Dupont.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste du vin, journaliste au Point. Et Daniel Messager est là également. Bonsoir Daniel.
Bonsoir.
Spécialiste santé pour France Inter. Michel Reynaud, on va commencer par vous. C'est quoi la différence, un peu ce que disait Loïc, entre c'est pas le vin qui est dangereux, c'est la façon de le boire, et ce ne sont pas les armes qui sont dangereuses, c'est la façon de s'en servir. Exactement ce que disait Loïc.
On va pas comparer Monsieur Macron à Monsieur Trump, mais je pense que là, il a fait quelques fake news, il a fait quelques erreurs graves en disant que on ne se saoulait pas dans les binge drinking au vin. Si, on se saoule aussi au vin.
Le binge drinking, pour expliquer aux gens,
c'est les alcoolisations aiguës des jeunes.
C'est quand on boit très très vite.
Et il essayait d'expliquer que ça ne touchait pas le vin, mais simplement la bière et les alcools forts. Ou quand Monsieur Castaner dit qu'il y a un alcool pas fort dans le vin, que le vin est un alcool pas fort. C'est pareil, c'est une information fausse. Il y a de l'alcool dans le vin, il n'est pas fort ou pas fort, c'est la quantité d'alcool qu'on ingurgite qui amène un certain nombre de conséquences dont on va parler. Mais moi j'aimais assez bien la façon dont il a commencé. On a une culture du vin en France, Le président a dit que c'était l'âme de la France. J'espère qu'il y a d'autres âmes que celle-là quand même. Mais ça fait totalement partie de la culture, du plaisir que nous avons pour la plupart d'entre nous, sans problème. Mais il faut savoir que pour les deux tiers des Français qui boivent sans qu'il y ait de conséquences, à des quantités réduites, en dessous de 2 verres par jour, il y en a un tiers qui consomme beaucoup plus. Et il faut vraiment avoir en tête que 8% des Français achètent 50% de l'alcool et 20% des Français achètent 80% de l'alcool. C'est-à-dire que la filière viticole comme la filière alcoolière vit des excès de l'alcool. Mmh. Et donc ça, c'est le problème majeur qui rend pour le moment la discussion difficile et qui explique qu'ils se battent pied à pied pour faire passer des informations qui noient le poisson, font un nuage de fumée et laissent penser que ça n'est pas dangereux. Si l'alcool est dangereux, pour un certain nombre de gens, et pour ces gens-là que je n'ose dire que je représente, parce que ça serait mieux qu'il y ait des patients, des familles qui se soient là dans cette position, pour ces gens-là, c'est des souffrances extrêmement importantes. Et l'incitation à la consommation est quand même une des raisons majeures de la consommation excessive de certains.
Jacques Dupont, en quoi l'argument culturel qui existe, effectivement, on est un pays de vin, on aime le vin et on boit du vin, en quoi cet argument-là serait antinomique avec le fait de dire que le vin est un alcool comme les autres et qu'il est dangereux au même titre que les autres,
hein. C'est pas antinomique, hein. C'est un débat, vous avez dit en introduction que c'était un débat vieux comme le monde, oui, c'est un débat qui a 6000 ans grosso modo et qu'on retrouve dans la Bible, hein. Dans la Bible, plusieurs fois, on a des scènes qui sont citées où l'abus de vin est déconsidéré. Il y a toujours eu ce débat et les philosophes grecs aussi en ont parlé. Et tout le long de l'histoire du vin, il y a eu des gens qui disaient... Alors, on valorisait un peu plus l'ivresse, mais c'était aussi l'ivresse des poètes. C'était pas forcément l'ivresse de l'alcool. Mais il y a toujours eu ce débat autour de qu'est-ce qu'on fait avec le vin. Est-ce que... Il y a même la petite chanson buvons un coup, là, je sais plus comment
buvons
c'est.
Un verre,
non, non, non.
À l'amitié, l'amour, la joie.
Sous la table,
ouais.
Voilà.
Hein. Ah. D'accord.
Je suis très mauvais chanteur.
On peut pas le faire maintenant, mais on voit à peu près à quoi vous faites allusion.
Ouais. Oui, voilà, mais il faut pas rouler sous la table. Et même cette chanson-là, qui est une chanson à boire, dit cette vérité-là. Il faut pas rouler sous la table. Ce qui signifie
je vais pas casser le débat tout de suite, puisqu'il est à peine 19h29, mais du coup, où est le problème, en fait? Je vois pas très bien. Pourquoi est-ce que les amateurs de vin sortent de leur boîte en disant « mais attention, danger ». Où est le danger, en fait, à dire « attention, l'alcool,
y a pas de danger
le
à
vin,
dire
c'est
ça.
De l'alcool ».
Il n'y a pas de danger à dire ça. Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Michel Reynaud, on a déjà débattu ensemble et on ne s'est jamais trop fâché.
Vous avez bu le verre de l'amitié ?
On n'en avait pas bu.
Ce qui m'énerve, c'est qu'on mélange un petit peu tout. C'est-à-dire que quand on parle des jeunes qui font du binge drinking, ils ne le font pas avec du Nuit Saint-Georges. Moi, quand j'écris dans le point, qu'est-ce que je fais ? Je recommande à des gens qui sont amateurs de vin et qui aiment des bons vins, je leur recommande des bons vins et j'essaie de leur trouver des bons vins à des prix intéressants. Quand je reçois, là, j'ai fait un article sur la déclaration de Buzyn sur le point, et j'ai reçu sur mon compte Twitter un paquet d'insultes, de choses et tout ça, où les gens mélangent tout. Ils me parlent du rosé pamplemousse. Le rosé pamplemousse, c'est le pire ennemi des viticulteurs français, puisque c'est de la daube qui vient d'Espagne, vraiment du très très bas de gamme, et fabriqué en usine. Ça n'a rien à voir avec le monde viticole que nous on défend. La consommation du vin, elle a baissé, je crois, en 30 ans, elle s'est divisée par 3. On est passé de 150 litres à 50 litres. Dans les 50 litres, faut pas oublier une chose, Fabienne, c'est qu'on compte tout ce que les 90 millions de touristes viennent boire en France, tous les gens qui viennent en Alsace, en Bourgogne ou en Champagne et qui viennent acheter du vin. Et qui viennent acheter du vin, qui remplissent leur coffre, tout ça passe sur la consommation française. Donc, c'est donc des chiffres qui sont déjà quand même contestables.
Daniel.
Mais le vin de qualité, c'est pas avec des Nuits Saint-Georges que les gamins font du binge drinking, quoi.
Daniel Messager.
Alors ça veut dire justement opposer plusieurs types d'alcoolisme, et c'est ça le problème. Vous posez la question, Fabienne, de dire quel est le problème. Le problème, c'est que pendant des années, je fais de la santé publique sur cette radio depuis des années, on a été dans le déni concernant les maladies liées à l'alcool, concernant le coût que représentaient ces maladies liées à l'alcool. Et excusez-moi, dans l'alcool, il y a aussi le vin. Et à partir du moment où on ne prend pas en compte le vin comme faisant partie intégrante de l'alcool, effectivement, on continue à être dans le déni. Alors, je comprends bien votre position qui est de défendre un certain type de vin, mais tout le monde ne boit pas des Nuits Saint-Georges ou des vins de haute qualité et de très grand prix. Et effectivement, le problème, c'est que pendant toutes ces années de déni, quand Catherine Hill, l'épidémiologiste, a publié ses premiers chiffres sur le nombre de décès par l'alcool, qui est de 50 000 morts par an, ce qui n'est quand même pas rien, elle s'est fait attaquer de toutes parts parce qu'on disait ce n'est pas vrai, ce ne sont pas des chiffres qui représentent la réalité. Aujourd'hui, on les reconnaît.
Y compris Agnès Buzyn critiquait le chiffre de Catherine Hill.
On reconnaît ces chiffres, on reconnaît ces chiffres aujourd'hui et on peut reconnaître quand même à la ministre de la Santé d'être constante dans ce qu'elle déclarait il y a quelques années sur effectivement les dangers de l'alcool. Elle les réexprime aujourd'hui. Elle ne semble pas être soutenue par le président de la République qui avait la même position quand il s'occupait des finances, effectivement.
Est-ce qu'on est capable de faire une différenciation, c'est-à-dire de dire sur tant de personnes qui sont alcooliques, il y en a, je ne sais pas, 25% qui sont addicts au vin, 40% à la vodka, etc. Ces chiffres disent quoi ?
Le nombre d'addicts est égal, est exactement proportionnel aux quantités consommées. C'est-à-dire que les deux tiers des dépendants sont dépendants au vin, qui correspond à peu près, ou 60%, qui correspond à peu près aux quantités consommées proportionnellement aux autres alcools. Donc oui, le côté alcool, il n'y a aucun doute pour le cerveau comme pour le foie, qu'ils viennent du vin ou qu'ils viennent du whisky, que le vin soit bon ou mauvais, c'est exactement la même chose. Mais quand Monsieur Dupont parle des grands vins, on ne peut qu'être d'accord avec lui. Et même des bons vins, pas forcément des grands vins. La question, c'est les quantités consommées par certains, en sachant que le plus souvent, ils consomment des vins de bas de gamme et que les grands consommateurs et que les jeunes consommateurs prennent souvent des cubiténaires et les boivent de façon extrêmement importante.
Des bag-in-box.
Et que ceci est particulièrement promu. Quand vous parlez du rosé pamplemousse, c'est pas un hasard si maintenant le rosé est devenu en France le deuxième vin avant le vin blanc, parce que c'est un vin de femme, ça a été parfaitement marketé. Donc on peut pas ne pas se
rendre... Pas le rosé pamplemousse, Michel Renaud.
Pas le rosé pamplemousse, mais le rosé qui est typiquement et qui a été poussé pour les femmes, est devenu la deuxième quantité consommée.
C'est pas exact. Il n'est pas du tout le vin des femmes. Le marketing a essayé d'en faire ça, mais aujourd'hui, tout le monde boit du rosé. Depuis la canicule de 2003, le rosé est devenu un vin de tout le monde, pas un vin des femmes.
Non. Mais
grande part de rosé est vendue à l'exportation aujourd'hui.
On devrait pas rire, mais qu'on consomme du rosé depuis la canicule, moi j'avoue que ça me laisse penser. Pardon, mais
il y a eu un éclatement à partir de 2003, l'année de la canicule. Curieusement, ça correspond aussi à une époque où on a fait des meilleurs vins.
Le problème est qu'il y a une incitation à consommer très large, qui a été largement augmentée avec le démantèlement petit à petit de la loi Evin, notamment la possibilité d'agir sur les réseaux sociaux et sur le web qui ont touché les jeunes, et puis l'amendement qui autorise le no-tourisme, le no-journalisme, sous le prétexte de permettre de l'information et qui permet le déversement des publi-reportages que nous voyons et qui font la vie d'un certain nombre de revues, dont celle dans laquelle vous travaillez.
Alors, c'est plus ou moins bien fait. Il n'y a pas de reportage sur le nôtre.
Non, mais
moi, je suis journaliste indépendant.
Il y a des numéros entiers sur le, parties très importantes sur le vin, qui sont faites avec qualité, dont j'ai du mal à penser qu'elles ne rapportent pas quelque chose au journal. Mais ce n'est pas il y a simplement une surinformation. On pourrait imaginer qu'on ait de la communication avec modération aussi, de la publicité avec modération. Or, au contraire, cette publicité explose. Donc, ça fait consommer un certain nombre de gens. Et parmi ce nombre de gens-là, un certain nombre deviendront accros.
Je voudrais qu'on aille faire un aller-retour au standard, d'accord, si vous voulez bien. Retrouvez Violaine. Bonsoir, Violaine.
Bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Oui, bonsoir. Moi, je suis ravie d'entendre ergoter autour du vin. Ce que je peux vous dire, c'est que ma famille a été détruite par le vin, qui est un alcool comme les autres, qui a les mêmes effets qu'une drogue dure, avec le manque, avec la destruction du cerveau, avec la mort jeune, avec destruction des familles, et tout ça, avec des vins au courant ou de bas de gamme, bien sûr, ce ne sont pas des Nuits Saint-Georges, ce ne sont pas des vins comme ça, mais justement, ce sont les autres qui sont consommés. Et je crois qu'on ne regarde pas assez ce problème, on ne l'étudie pas assez, on ne le traite pas assez. C'est un problème de santé publique. J'ai 70 ans maintenant, rien n'a changé. Les familles sont détruites et rien ne change. Et le vin est toujours là, il est consommé. Et les femmes en sont également victimes. Et les femmes sont complètement inopérantes dans leur famille, détruisent leurs enfants. C'est absolument épouvantable.
Violaine, on a entendu votre émotion. Merci beaucoup pour votre appel dans le téléphone sonne. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Violaine,
moi,
Michel Rémaud ?
Je veux dire
pardon.
Quand même un mot.
Allez-y,
c'est que,
Jacques Dupont.
La consommation de vin par tête d'habitant était il y a 30 ans, elle était de 150 litres. Aujourd'hui, elle est de 150 litres en comptant ce qui est consommé par les touristes en France. Donc on n'est pas du tout dans une situation de surconsommation comme ça a été présenté. Je voudrais juste dire une chose. Autrefois, on consommait des vins à 5 étoiles, des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez me citer 4 marques de vin aujourd'hui ? Moi, je peux vous en citer de cette époque où la dame avait 70 ans. Il y avait Gévéor, Préfontaine, les vins des Rochers, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de citer 4 marques de vin ? Non. Il y a tous ces vins-là, tous ces vins bas de gamme, ont quasiment disparu. Et quand vous dites, Michel Reynaud, qu'on voit des jeunes se saouler avec des bag-in-box, pas des cubitanaires, ça a un peu disparu, mais avec des bag-in-box, moi, je vois pas ça. Je vois des jeunes de temps en temps dans Paris, j'habite près de la Bastille, avec des bidons de soda dans lesquels ils rajoutent des alcools forts de bas de gamme qui sont proches de l'alcool à brûler et avec lesquels ils se saoulent. Mais je ne les vois pas boire avec un bag-in-box. D'abord, c'est absolument pas pratique. Et je les vois plus souvent avec des alcools forts qu'avec du vin.
Mais la
question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Vous me reprochez de parler du vin dans le point. Mais moi, je pense à l'inverse, que plus on informe les gens, plus on les éduque, plus on leur apprend à faire attention avec le vin et peut-être à découvrir qu'il y a une culture derrière, moins on risque d'aller vers des conduites à risque. Je me suis beaucoup... impliqué dans la formation de jeunes. J'en ai emmené avec moi chez les vignerons. Quand on leur montre chez les vignerons comment se produit, qu'est-ce que c'est que le travail dans une vigne sur un an, comment on travaille le vin, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on attend 3 ans avant de récolter, etc. Quand on leur montre tout ça, quand ils reviennent chez eux, c'est surtout avec des adolescents que j'ai fait ça, quand ils reviennent chez eux et qu'ils se retrouvent avec une bouteille de vodka à 5 euros chez Lidl, ils ont l'impression de se salir et je n'ai jamais vu un de ces jeunes que j'ai emmené avoir une conduite à risque après.
Mais encore une fois, moi j'ai du mal à comprendre ce qui est incompatible en fait, dans ce qu'on est en train de dire. Parce que même si la consommation par personne baisse, s'il y en a 3 qui en boivent trop et que c'est ces 3-là qu'on retrouve effectivement après dans les séances d'addictologie...
C'est la liberté individuelle, c'est la personne qui choisit, c'est pas l'alcool le coupable.
À condition qu'elle soit clairement informée, comme le disait Daniel Messager il y a quelque temps, il était impossible ou extrêmement difficile de montrer la masse des dommages liés à l'alcool. Il y avait le papier là tout récent qui est sorti qui montre que c'est la première cause de démence précoce, que c'est le deuxième facteur du cancer, que c'est une cause majeure de la première cause de retard mentaux acquis dans notre pays. C'est tout ça, nous on le sait depuis 20 ans, mais on n'arrivait pas à le faire passer. C'est en train de passer. Alors le problème, ce contre quoi se battent les gens qui défendent l'alcool, je parle pas du vin. Le vin,
c'est pour ça que la nuance est importante.
Il y a de l'alcool dans le vin. Voilà, mais il faut bien dire qu'il y a, je vous dis, 8 à 10% de gens qui sont dépendants et 20% de gens qui consomment mal et qui se mettent en danger, qui mettent en danger leurs proches. Mais c'est 20%, ils achètent 80% de l'alcool. Et donc, tant qu'on n'aura pas... Et c'est bien pour ça qu'il est si difficile d'expliquer que l'alcool est un... toxique, dangereux, est un produit potentiellement dangereux, même si le vin, comme l'alcool d'ailleurs, enfin comme les alcools forts, sont extrêmement agréables, font partie du plaisir. Il y a une vraie culture, et c'est vrai que les viticulteurs font de ça avec amour et y mettent tout leur plaisir et essayent de le faire bien, mais il ne faut pas en même temps se cacher que c'est avec les consommations massives que la viticulture vit, comme les autres alcools, et il ne faut pas se cacher qu'il y a des dommages que l'on a cherché à étouffer. On ne parle pas des violences, des violences familiales, des violences sexuelles. Tout ça, c'est une masse qui est liée au comportement d'excès d'alcool, mais le marketing et la pression poussent à l'excès d'alcool.
Daniel Messager, avant qu'on retourne au standard.
Moi, mon métier, c'est de donner une information. Je ne dis pas je suis pour, je suis contre, je donne une information. Moi, je n'utilise pas le mot vin pour ne parler que du vin. J'utilise, comme le professeur Reynaud, le mot alcool, et le vin fait partie de l'alcool. Reconnaissez qu'il y a aussi une nocivité dans le vin, comme les autres types d'alcool, et dans les formations que vous dites faire, et je suis sûre que vous les faites très bien avec les jeunes, est-ce que vous enseignez aussi cette nocivité qui fait partie du vin, qui fait partie lui-même de ce groupe
bien
alcool
sûr, bien
et
sûr.
Que cette nocivité, elle apparaît dès les premières consommations, et que ce soit avec du Nuit Saint-Georges, on va arrêter de répéter le nom de
ouais,
voilà, justement, comme avec d'autres, la nocivité,
on peut-être changer de grand cru,
quand,
si
quand oui, le président bien, de la République dit qu'il boit du vin, je ne sais pas si c'est vrai, mais il l'a déclaré auprès des jeunes agriculteurs, auprès des jeunes viticulteurs, parce que c'était son public, qu'il boit du vin midi et soir, eh bien non, il y a une nocivité.
Jeanne Calment aussi, Daniel.
Oui, on ne va pas rentrer dans les cas particuliers, ce n'est pas le sujet. Il y a une nocivité dès les premières consommations et même avec une petite consommation. Et l'information, c'est ça.
Je pensais que vous alliez répondre.
Oui,
allez-y, parce que je voudrais qu'on prenne un médecin à l'instant. Ce que vous avez dit sur Jeanne Calment, ça m'intéresse aussi. Allez-y.
Juste un petit détail. Aujourd'hui, quand vous dites que c'est la surconsommation et la survente du vin en France qui fait vivre les viticulteurs, c'est faux. Aujourd'hui, c'est l'export qui fait vivre les viticulteurs. C'est parce que le monde entier achète du vin, le monde entier découvre le vin, tout notamment les pays qui ont des grandes gastronomies, comme la Chine, etc. Et aujourd'hui, par exemple, le champagne qui était vendu en France à plus de 50%. Aujourd'hui, le champagne est passé avec un chiffre à l'export beaucoup plus important. Et la consommation du vin ne cesse de baisser en France.
Alors, j'ai vraisemblablement moins de connaissances sur l'économie du vin que vous. Néanmoins, j'ai la certitude que 8% des Français achètent 50% du vin en France.
Oui.
Donc, c'est ceux-là qui font l'essentiel des bénéfices des viticulteurs, quels qu'ils soient, aussi humains, de qualité, avec le grand cœur qu'ils y mettent. Et lorsque vous dites je n'ai jamais entendu le monde viticole ou le monde de l'alcool insister sur les dangers de la consommation. Si vous allez sur le site de Vins et Sociétés, vous trouverez encore que l'alcool est bon et protège du cancer du côlon, protège du cancer de l'œsophage. Enfin, il y a des choses qui sont scandaleusement fausses. Et ça, c'est insupportable. Moi, je veux bien que les gens choisissent. Mais pour qu'ils choisissent, il faut qu'ils aient vraiment toute l'information. Et je pense que l'on doit protéger les jeunes. Ils ne sont pas protégés.
Et j'allais venir justement, parce que vous parlez de santé, vous plaisantiez sur Jeanne Calment, on a tous plaisanté effectivement, qui est devenue centenaire avec un verre de vin, mais il y a aussi beaucoup d'idées reçues peut-être autour du vin et de ses aspects médicaux qui pourraient être importants. Bonsoir Jean-Jacques.
Oui, bonsoir.
Vous allez pouvoir d'abord tordre le cou à quelques idées reçues puisque vous êtes médecin. Parlez-nous d'abord de ce dont vous voulez nous parler, posez votre question, puis j'en ai une ou deux pour vous après. Allez-y.
Alors, je pense que un malade sur deux dans les hôpitaux reste un malade, un lit sur deux dans les hôpitaux est occupé par un malade de l'alcool ou du tabac. Il faut rester réaliste. Moi j'ai travaillé avec des chirurgiens qui étaient des ORL, ils n'opéraient que des cancers de la gorge, qui étaient dus à la moitié à l'alcool, c'est-à-dire au vin. Il faut appeler un chat un chat. J'étais au Canada où il y avait une politique réelle anti-alcool, eh bien. Ça m'a fait penser, cette politique réelle anti-alcool, avec des publicités de 4 mètres sur 3, avec vous avez bu, vous êtes à 1,5 g, et vous devez 5 000 euros, autrement dit, à la société si vous avez un accident. Et ils avaient une politique réelle anti-alcool. Parce que j'avais été invité à un mariage, où ils nous avaient dit vous allez apporter 5 bouteilles de martini. Et on leur avait dit on va trouver ça dans vos supermarchés. Ah, pas du tout. Et à la sortie de l'aéroport, je me suis précipité dans le supermarché. Et effectivement, impossible, on trouvait toutes sortes de coca, toutes sortes de Fanta, qui ont des ennuis, je vous l'accorde, mais pas un gramme d'alcool. Et la caissière m'a dit, vous allez aller à 30 km, vous allez présenter votre carte d'identité, vous allez tamponner, et vous avez le droit à 1 litre, c'est tout, par personne et par mois. Avoir une politique anti-alcool.
La politique réelle anti-alcool, Jean-Jacques, merci.
J'ai pas vraiment envie de vivre dans ce monde-là, moi, personnellement, mais voilà.
Alors bon, ça se passe en Amérique du Nord avec d'autres politiques, avec d'autres façons de faire.
Mais en même temps, il faudrait que les alcoologues se mettent d'accord, parce que j'ai vu sur le site de l'ANPA récemment que Bernard Basset disait que le programme de lutte anti-alcool au Québec était archi nul et n'est rien. Alors il faudrait quand même que tout le monde se mette d'accord. Mais si on prend le nombre de lits d'hôpital avec l'alcool et le tabac, et on pourrait y rajouter la voiture et sans doute d'autres excès, on va arriver à 100%. Mais c'est pas l'alcool qui est le principal responsable, comme le disait notre interlocuteur.
Jean-Jacques, puisque vous êtes...
J'ai fait une étude là-dessus, l'alcool est la deuxième cause d'hospitalisation en France après le diabète.
Oui, mais pas un lit sur deux.
Jean-Jacques, puisque vous êtes encore là, il y a beaucoup de choses qu'on lit, et souvent n'importe quoi en fait. Un verre d'alcool ou deux verres d'alcool permet de conserver la santé pour telle et telle raison.
Alors, en petite dose, oui, bien sûr, en petite quantité, tout le monde est d'accord là-dessus, mais c'est où on est évidemment, je dirais, non seulement pas d'accord, mais... À la manière du professeur Gou qui avait démontré, qui avait mis, je dirais, le nombre de morts de voitures, quand les Anglais en 1976 étaient à 16 000 morts, les Français, pardon, étaient à 16 000 morts et que les Anglais étaient à 3 500 morts, on a fait des efforts, on a fait de la publicité soft and trash, c'est-à-dire dure et douce, et on est arrivé au même chiffre que les Anglais. Preuve qu'une politique de santé peut conduire à une diminution réelle des accidents de la route. Et ben c'est pareil pour l'alcool. Alors...
Michel Reynaud.
Contrairement à ce que dit notre interlocuteur, l'alcool est dangereux au premier verre régulier. Mais il est dangereux d'une façon limitée. Il augmente le risque de cancer du sein essentiellement chez certaines femmes. Mais c'est un pourcentage limité. Entre 1, 2 et 3 verres, on a une augmentation du risque modérée. Que certains disent acceptable, c'est un choix. Là où les choses deviennent beaucoup plus difficiles, c'est quand on passe à 4 ou 5 verres quotidiens, où on double son risque de mortalité prématurée, et à 8 verres quotidiens, on multiplie par 10. Donc, il y a... une zone dans laquelle on peut discuter. Certains disent un verre, certains... nous n'avons jamais dit... Je pense qu'il faut intégrer que l'alcool est un produit dangereux. Une fois qu'on a intégré que l'alcool est un produit dangereux, on peut très bien choisir de prendre un risque modéré, mais d'y prendre du plaisir, beaucoup de plaisir, et le partager. Surtout si on peut rester dans des consommations qui sont modérées. Mais il faut vraiment toujours avoir en tête que l'alcool est un produit dangereux. Et c'est ça qu'il faut apprendre à contrôler.
Je voudrais qu'on reste justement sur ce thème-là grâce à Stéphane et sa question. Bonsoir Stéphane.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y Stéphane, bienvenue.
Voilà, moi j'ai une réaction et une question sur la question des doses justement, puisque l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, communique encore aujourd'hui sur le fait que jusqu'à 3 verres par jour pour un homme avec un jour d'abstinence par semaine, il n'y aurait pas de risque pour la santé, alors qu'en fait on sait très bien que cette dose-là prise quasi quotidiennement, c'est quelque chose qui va être très addictif, d'autant plus que le vin s'est assimilé à l'alimentation, ça va être quelque chose qui va être aussi dans la convivialité, etc., etc. Et mon expérience, c'est que même à des doses, voire inférieures à 3 verres par jour, le vin est dangereux. C'est dangereux. Donc voilà, ma question, c'est est-ce qu'un jour, l'OMS va se mettre un peu à la page et arrêter de communiquer de cette façon-là? Parce qu'on trouve dans toutes les salles d'attente de médecins des plaquettes qui disent que jusqu'à 3 verres par jour, tout va bien, quoi. Voilà.
Michel Reynaud pour répondre.
L'OMS dit que boire moins, c'est mieux. Et le risque, il existe, je vous l'ai dit, à un verre, deux verres, trois verres. Le French Paradox a permis justement les exportations dont vit la France. C'est pour ça qu'ils ont si peur dans la tribune qui a été publiée que soit inscrit le vin est dangereux pour la santé. C'est pas le vin qui est dangereux pour la santé, c'est de l'alcool qui est dangereux pour la santé. Après, on fait avec les alcools, les produits que l'on aime. Mais à 1, 2 ou 3 verres, il y a un risque modéré et différent en plus selon les gens. Après, il faut vraiment avoir en tête qu'une consommation mal contrôlée entraîne les catastrophes dont on vient de parler. Alors, on ne va pas discuter sur les petites doses. Même à petite dose, le risque est augmenté. Il est un peu augmenté. Après, toute la question, le problème, c'est comme on le dit et comme on le redit, c'est qu'une petite partie des Français... Les deux tiers des Français boivent peu et sans conséquence, mais qu'une petite partie des Français boit avec des conséquences terribles pour eux et pour leurs proches, et que cette partie-là est celle qui fait la richesse de la viticulture ou des vendeurs d'alcool. Et donc, tant que ça n'aura pas été intégré, et tant qu'on n'aura pas accepté que l'alcool est le psychotrope, je suis addicto, je m'occupe de toutes les drogues, c'est la drogue la plus dangereuse, tant qu'on n'aura pas intégré ça, on va avoir des discussions un peu difficiles.
Daniel ?
Voilà, l'information c'est celle-là, c'est qu'effectivement il y a une nocivité même à partir d'une petite dose, et surtout qu'il n'y a pas de bienfaits de l'alcool. On a essayé de faire croire pendant des années qu'il y avait des bienfaits
liés
à l'alcool.
C'était le sens de ma question à Jean-Jacques
aussi. En termes de maladies cardiovasculaires, les producteurs de vin avaient fait un très beau coup marketing il y a quelques années, aidés par quelques médecins pas forcément très honnêtes, en sortant de pseudo...
Il y en a encore.
En sortant de pseudo-études scientifiques.
Sur l'Alzheimer, ouais, que j'ai lu quelque part.
Voilà, qui démontrait un bienfait de l'alcool. Il n'y a pas de bienfait de l'alcool, que ce soit en termes de prévention de cancer, de prévention de maladies cardiovasculaires. C'est de l'information. Après, on peut utiliser de l'alcool à une petite dose. Voilà. Mais il ne faut juste pas l'utiliser en prenant le soi-disant bon prétexte que c'est un bienfait pour la santé. C'est faux.
Sur le site de Vin et Société, je vous passe la parole et on n'est pas là pour vous embêter, Jacques.
J'ai
Dupont,
l'impression d'être dans le bouquin de Daniel Pénac, au bonheur des hommes. Il y a un type qui sert de punching ball.
Je ne vous attaque pas personnellement. Je pense que le vin est très agréable. Dans le site de Vin et Société, il est encore écrit que l'alcool est bon pour les fonctions cognitives. Non, c'est la première cause de démence précoce et le facteur majeur d'aggravation des démences chez les plus âgés. Alors non, c'est insupportable. Alors après que l'on boive pour le plaisir, sûrement, mais pas pour dire que c'est bon pour la mémoire ou que c'est bon pour le cœur. C'est faux. Et c'est encore là-dessus qu'il communique.
Dupont, juste avant que vous répondiez, j'ai une question pratique pour vous qui nous vient de franceinter.fr. Le vin, à une époque, tirait à 10 degrés, maintenant c'est plutôt 14, et ce n'est plus la même chose. C'est vrai ou pas, ça ?
Ça, ça demanderait un long débat, mais c'est vrai qu'on a constaté un réchauffement climatique, hein, entre autres. Et puis, on produit beaucoup moins en France. On a réduit énormément la production par hectare, et donc ça fait aussi effectivement un peu grimper l'alcool. Pendant des années et des années, les vignerons se sont battus pour essayer d'obtenir un petit peu plus de sucre dans leurs raisins, parce que c'était trop faible et que c'était des vins on pouvait faire les carreaux avec, quoi. Et aujourd'hui, leur lutte serait
imaginez
plutôt
de... Imaginez ce que ça fait dans l'organisme.
non, c'est une plaisanterie, évidemment. Mais aujourd'hui, leur combat serait plutôt de réduire le taux d'alcool dans le vin. Mais je voulais dire que j'étais d'accord avec ce que disait Michel Reynaud tout à l'heure. Après, c'est une question de conscience. Moi, je n'aime pas le terme modération, j'aime le terme boire avec raison, avec sa tête, avec son cerveau. Alors, pour combattre l'alcoolisme, je pense que ce n'est pas forcément les interdits qu'il faut, mais il faudrait peut-être aussi combattre pourquoi il y a des gens qui ont besoin d'avoir recours à des drogues ou à l'alcool. Il faudrait combattre les manques. Évidemment, moi, je ne bois pas du vin en me disant je me fais du bien à la santé. Je crois que quand on boit du vin, on le boit pour son plaisir, avec sa tête, avec sa raison, en le partageant avec d'autres, mais pas en se disant que, tiens, dis donc, tu sais pas, ce soir, je vais soigner mon cœur, ou je vais vaincre Alzheimer et je vais boire un verre de vin. Si je faisais ça chez moi, ça surprendrait beaucoup de monde.
Une question pour vous, Michel Reynaud. Vous nous direz si, effectivement, c'est une espèce de logique et de descente plutôt qui fonctionne comme ça. Mon père était alcoolique, il ne buvait que du vin, il est mort à 56 ans. Au bout d'un moment, les alcooliques finissent par boire du vin, car c'est l'alcool qui est le moins cher, finalement, par rapport à d'autres alcools plus forts.
C'est pas vrai, ça. Maintenant, il y a des alcools beaucoup moins chers que... Enfin, oui, évidemment, on trouvera toujours du vin à 1,30€, hein, mais vous pouvez trouver de l'alcool... Si les alcooliques qui veulent gagner du temps... dans la soulographie, vont trouver des alcools, des distillats qui sont épouvantables à 6 euros dans les supermarchés.
Le vin est quand même l'alcool le moins cher, même si on réussit à obtenir des vodkas ou des rhums ou des whiskies très peu chers et qu'ils sont spécifiquement ciblés sur les jeunes. Mais le vin est l'alcool qui est le moins taxé en France. Et on sait que le prix est un facteur important des quantités consommées. Et que si on voulait être efficace, il faudrait augmenter le prix du vin et permettre que le prix de l'unité d'alcool, mais c'est celle qui est la moins taxée en France pour des raisons que l'on connaît facilement, et qu'il faudrait augmenter la possibilité d'avoir des boissons non alcoolisées à des prix plus bas, que ce soit de l'eau, que ce soit des jus de fruits, que ce soit des cocktails de jus de fruits. Et c'est une stratégie qui pourrait se mettre en place.
Michel, bonsoir. Vous étiez le premier arrivé, vous êtes le dernier. Désolé, mais on vous écoute. Allez-y. Michel.
Moi, effectivement, bonsoir. Le vin, c'est de l'alcool, mais c'est un plaisir. Alors, mon expérience personnelle fait que, en fait, on ne consomme que très peu d'alcool, très peu de vin, pardon, notamment sous l'aspect festif, c'est-à-dire que entre amis, dans la famille, quand on reçoit du monde. Le restant du temps, c'est de l'eau. Mais ça veut dire par là que on prend du plaisir à boire du vin parce que il y a un aspect convivial, ça a été dit, un aspect festif et on se limite. Alors quand on a évidemment de la famille, des amis, on prend plus d'un verre de vin par personne, surtout si à la fin il y a un vin mousseux ou un vin champagnisé. Voilà, donc je considère que le vin est un alcool, mais ça fait partie du plaisir et de la convivialité avec modération.
Voilà qui met tout le monde d'accord, non, Jacques Dupont?
Ah oui, moi je suis d'accord, je trouve toujours formidable. Quand on voit Vinexpo, maintenant c'est le grand truc de à Bordeaux qui bat un peu de l'aile, mais je trouvais admirable de voir des stands qui venaient de tous les pays du monde, certains étaient en guerre, et les gens en train de parler de vin et d'échanger, je trouvais ça formidable. Après, effectivement, faut rester... Faut boire avec sa tête, faut boire avec raison, et pas avec parce qu'on a un manque, parce qu'on souffre, parce qu'on n'est pas bien.
Mais c'est vrai que le vin est un grand plaisir, et c'est vrai que la plupart des Français le boivent sans prendre de risques importants. Je reviens et je répète mes chiffres, et c'est pour ça que quand le président dit « mais il ne faut pas qu'on emmerde les Français », c'est entendu, c'est-à-dire on n'a pas envie d'être emmerdé, de ne pas pouvoir boire le verre de vin avec les amis que l'on aime, sauf que si, pour les deux tiers ou les trois quarts qui boivent sans danger, il y a les 25% qui consomment énormément et qui mettent eux-mêmes et leurs proches en danger, qui coûtent extrêmement cher, et c'est ceux-là vers lesquels la communication est faite, ou c'est pour attraper cela que la communication est faite, sans mettre en valeur l'importance des dangers et en incitant à consommer le plus tôt possible.
Il faudrait peut-être se demander pourquoi ils se mettent comme ça.
Après, il y a des
vulnérabilités. C'est pas parce qu'ils ont vu une publicité de 4x3 qu'ils vont se mettre à boire.
L'incitation à consommer a des conséquences. Sinon, il n'y aurait pas une telle lutte des alcooliers pour réussir à faire la publicité. Renaud,
la publicité aussi a servi à lutter contre l'alcoolisme. Tu t'es vu quand t'as bu, c'était quand même un excellent slogan.
C'était une campagne de prévention.
Oui, tout à fait.
C'était pas de l'incitation à la consommation.
Sûr, et en même temps, publicité. C'était assez festif. On a des publicités, il y va du vin comme d'autres produits toxiques. C'était assez festif, le tu t'es vu quand t'as bu, si on compare avec ce que nous racontait l'auditeur tout à l'heure de ce qu'on trouve en Amérique du Nord, par exemple.
Moi, je trouvais que c'était très dégradant et que c'était assez efficace. La preuve, c'est qu'on se souvient du slogan.
Et puis, cette dernière question d'Antoine, on l'a pas évoqué, mais enfin, c'est quand même indispensable. Y a-t-il un lobby du vin en France qui aurait pu influencer la réaction du président de la République? On peut pas passer complètement à côté de cette question, Jacques Dupont.
Moi, ça me fait toujours rire, le lobby du vin, parce que quand on veut s'adresser au monde du vin, on est en face de 25 filières. Il n'y a pas vraiment de lobby du vin. Il y a des gens qui sont très efficaces, peut-être au niveau des alcools, forts, mais au niveau du vin, ça me fait un peu rigoler. Et surtout, quand ça vient du monde médical qui dit ça, parce que franchement, c'est pas les CAF coopératives qui invitent les médecins dans des colloques, dans des hôtels 5 étoiles.
Ils sont regroupés dans un regroupement interprofessionnel qui a une puissance de communication absolument remarquable, et vins et sociétés dont est issu Audrey Bourdon.
Vous voulez qu'on parle des budgets, Michel ?
Sont d'une fantastique efficacité. Et derrière, il y a les grands alcooliers extrêmement discrets qui sont la bière, le pastis, le ricard.
La Ligue anti-alcoolique a un budget qui est largement supérieur à celui de la société.
C'est misérable. C'est pas de l'ordre de 1 à 100. Entre la publicité que fait l'alcool et celle de la NPA, puisque c'est essentiellement eux, c'est misérable, enfin c'est quelques millions.
Daniel Messager, j'ai juste 15 secondes.
Oui, je veux délivrer un dernier message de santé publique après tout, puisque je suis là pour ça. On n'a pas parlé des cas d'alcoolisation fœtale. Il y a 8000 enfants qui naissent chaque année parce que leur mère enceinte a bu. Donc, excusez-moi, mais c'est un message qu'on ne délivre pas souvent. Zéro alcool, donc zéro vin aussi pendant la grossesse.
Voilà, je signale aussi, puisqu'on me l'a dit maintes fois cet après-midi, que même quand il fait froid, l'alcool ne réchauffe pas. Comme ça, au moins c'est dit. Merci à tous d'avoir participé à ce téléphone sonne. Merci pour les nombreuses questions.